Je voudrais commencer pour vous poser deux questions ce matin. Quand j'étais en train de préparer ce thème, je dis, Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'agréable d'écouter. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime traverser ou qu'on aime vivre vraiment. Et cette semaine, j'ai eu quelques échanges avec, plutôt avec Gilles, avec le pasteur qui nous a visités, ça fait quelques temps. Et on a échangé beaucoup par rapport à ce thème que je vais partager ce matin. Et je vais parler ce matin de la souffrance. Le titre que j'ai choisi, c'est « Grandir à travers de la souffrance ». Il faut dire que l'Église, le Seigneur, il commence plutôt à tomber dans un piège de la part de l'ennemi. Il sait qu'on commence à adapter l'Église, à écouter un message pour dire, écoute, tout va bien, les choses vont changer, le monde va bien, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de souffrance. Tu vas voir comme le Seigneur il va faire, il va te guérir. Et c'est vrai que c'est un bon message. Mais je pense que c'est important. Il y en a aussi les privilèges, mais la responsabilité devant le peuple de Dieu de dire et de montrer la parole telle qu'il est. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai choisi de parler de ce thème que même que c'est touchant pour nous et que c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas vraiment traverser, mais que c'est important pour nous comme chrétiens. Je demande à Dieu qu'il met dans ce matin la parole et la sagesse pour transmettre ce message que tu peux croire vraiment, c'est très, très important pour chaque chrétien. La semaine dernière, j'ai eu une conversation avec ma fille Isabella. Alors, elle me disait, papa, je viens d'avoir 18 ans. Alors, quand on est enfant, on n'a pas trop de responsabilités, bien sûr. Il faut aider un petit peu à la maison, il faut faire les devoirs, on a des responsabilités. Mais c'est vrai que grandir, ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Ma fille, elle a fait 18 ans, ça ne fait même pas un mois. Et la petite, elle va avoir cette semaine 16 ans. Et maintenant, je vois comme la vie, ça passe vraiment d'une manière rapide. On voit grandir les enfants rapide. N'est-ce pas? Vous savez déjà, les enfants, qu'ils sont grands, quelqu'un ici. Alors, on voit comment les choses se passent très vite. Alors, grandir, ça veut dire aussi qu'il y a une responsabilité, mais que ça va être accompagné quelquefois de la douleur. Il y a des médecins qui l'expliquent, et quand les enfants, ils sont en train de grandir, des fois, ils sont un peu la fièvre, un peu la douleur. Parce qu'il y a tous les corps qui commencent vraiment à changer, à grandir. Alors, pendant qu'on est dans une période de croissance, alors il y aura toujours des moments de souffrance et des moments de douleur. C'est pour ça que je voudrais commencer ce matin et je vous pose deux questions. Et la première, quelle est la douleur ou la souffrance plus grande, plus profond que tu as pu expérimenter? Je te laisse quelques instants pour réfléchir. C'était quelle la situation plus difficile que tu as traversée? Peut-être ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Peut-être c'était ton enfance quand tu as été petit. Tu as vécu le divorce, tu as vécu la mort de quelqu'un très proche à toi. Et tu as vécu des injustices, tu as été maltraité, peut-être, je ne sais pas, dans l'école, dans les collèges. C'est le Saint-Esprit qui va nous montrer à chacun de nous. Moi, je sais déjà qu'est-ce que c'était l'expérience plus difficile dans ma vie qui m'a touché. Alors, il y a une deuxième question que je voudrais poser ce matin, et c'est comment tu peux utiliser cette souffrance, cette expérience pour aider les autres. Et on va répondre à ça à la fin de cette prédication. Parce que le plus important, c'est pourquoi je traverse des moments difficiles. Il y avait David qui disait, il faut que je traverse un vallée, qu'il y a la souffrance et qu'il y a la douleur. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé ce matin, je dis, on ne va pas rester dans l'hiver de notre vie. La vie, il y a des saisons dans notre vie. Il y a des bonnes saisons, on voit les printemps, on voit les choses grandir, on voit nos enfants grandir, on dit les couples, ils vont bien, les travail, ils vont bien, et toutes les choses vont bien, alors on est content. Mais la vie, ce n'est pas seulement que la joie. Il y a la tristesse, il y a la douleur, mais il y a la joie aussi. Et il y a la souffrance, la perte, la douleur et les échecs, la mort font partie de ce monde dans lequel nous vivons. Alors, il faut savoir que la vie, je dis souvent dans les groupes des jeunes et à mes filles, la vie, ce n'est pas facile, même si on est chrétien. Au contraire, des fois on pense, ah oui, je vais me rapprocher de Dieu, je vais commencer à chercher le Seigneur, alors toute ma vie va s'arranger d'un seul coup. Non, mais ce n'est pas comme ça. Parce que le Seigneur, il est plus intéressé de essayer que ton corps soit toujours attaché à lui que résoudre des fois un problème d'un jour à l'autre. C'est pour ça que le Seigneur, il permet qu'on traverse la vallée des douleurs, qu'on traverse des situations et des moments difficiles. Parce qu'il y a toujours un objectif spécifique. Un but pour faire ça. Personne n'est pas à l'abri de la souffrance. Ce n'est pas marrant de prêcher de ça. Hein. Je voudrais prêcher d'autre chose. Mais je pense qu'à la fin, on va prier pour ça. Parce que le Seigneur, il voudrait vraiment qu'on arrive à avancer et enlever. Parce que des fois, la douleur et la tristesse, elle est vraiment, comment on dit, enracinée. Oh, merci Seigneur. Ah, c'est compliqué ça pour moi. Il est enraciné, et on est attaché. Et tu sais, la douleur, des fois, met un mur devant nous et ça, on n'est pas capable vraiment d'avancer et d'accomplir l'appel que le Seigneur il nous a donné, qu'il a fait à chacun de nous. Personne n'est pas à l'abri, soit chrétien ou non chrétien. Personnellement, je voudrais ouvrir mon corps avec vous ce matin. Quand j'étais petit, je pense que la joie, et je pense que les buts dans la vie, je pensais quand j'étais petit, ça sera d'avoir une vie sans problème, sans souci et sans souffrance. Mais ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous. Moi, quand j'étais petit, je disais, Seigneur, aide-moi, parce que j'ai la douleur ici, j'ai des problèmes là. Et je dis, Seigneur, peut-être qu'il y aura un jour et je serai complètement libre et que je ne veux pas souffrir ou je n'ai pas besoin de traverser quelques situations. Alors maintenant, que j'ai grandi, comme je disais tout à l'heure, et que je vois vraiment que la vie, c'est pas toujours la vie en rose, comme a chanté une grosse chanteuse française, c'est pas seulement la vie en rose. Il y a des différentes couleurs dans toutes les étapes de notre vie. Et ça change de temps en temps, mais il faut savoir que Dieu, il est toujours au contrôle, que le Seigneur, il est plus puissant que nous et qu'il nous regarde parce qu'on est ses enfants et qu'il sera toujours, toujours, et tu peux croire ça, à notre côté. Malheureusement, il n'y a pas un chemin différent. Il faut traverser la souffrance. Je vais vous dire pourquoi il faut traverser la souffrance. On peut éviter de la traverser, mais ça ne marchera pas, parce que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui on dit qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de la part de ma mère, et qui m'a dit, écoute Oscar, il y a ta tante qui elle est chrétienne, elle est évangélique comme nous. C'est uniquement dans toute ma famille, c'est ma tante qui est chrétienne, parce qu'on est chrétienne de base catholique, mais elle est un peu comme nous, elle est évangélique. Alors ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute Oscar, elle va avoir 78 années et bientôt. Et c'est la sœur aînée, c'est la plus grande de la part de mon père. Et alors, elle était à sa maison avec ses enfants, qu'il s'habite à côté, proche à elle. Et elle a suivi tout de suite une AVC, elle a tombé par terre. Ils sont pris en voiture, elle est à l'hôpital. Et je pense que c'était jeudi, le médecin elle a dit, écoute, je pense qu'il n'y a pas trop d'espoir. Je pense qu'elle va décéder, c'est très fort la situation qu'elle a passée. Alors toute la famille a été dans la souffrance. Moi, je l'ai vécu d'une manière différente parce que je ne suis pas proche, j'étais pas... ça fait 20 ans que j'ai quitté la Colombie, alors j'ai des souvenirs, mais j'ai pensé plutôt pour ses enfants, hein. J'ai pensé plutôt pour les personnes qui sont à côté. Il faut essayer de comprendre les personnes qui sont dans la souffrance. Je ne sais pas, on dit empathie, non ?
Empathie,
oui. Empathie. Moi, j'aime bien ces mots parce que des fois... on regarde que tout le monde est dans la souffrance. Ça, c'est pas moi, ça m'a pas touché. Et moi, j'étais dans l'empathie avec ma famille. On a commencé à prier. Et 2 jours après, elle s'est réveillée. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'était passé. Et c'est ma maman qui ne connaît pas le Seigneur de la même manière qu'on le connaît. Et après, elle m'a dit, écoute, Oscar, elle peut manger, elle peut marcher, elle peut prendre la douche, mais elle ne parle pas. Parce que peut-être qu'il faut qu'elle apprenne une fois encore à parler, parce qu'il y a des conséquences. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle m'a dit, écoute, Oscar, toujours qu'on voudrait parler avec elle, elle dit toujours amen, 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 amen. Alors pour moi, ça c'est touchant. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui as fait les miracles. Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur va les donner quelques années de vie. Ça fait longtemps que je ne parle pas avec elle, mais je sais qu'elle est une chrétienne engagée avec le Seigneur, qu'il a enlevé les enfants dans la crainte du Seigneur et qu'elle a fait la partie qu'il faut faire. Et ça, ça m'a fait rappeler ce matin, peut-être de la souffrance de la part de ma tante. Parce que je me rappelle quand j'étais petit que j'ai visité ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était une dame qui, avec un caractère très fort. Et toujours, quand j'écoutais parler de ma tante, elle disait, ah oui, elle a laissé la religion. Elle est partie pour chercher les chrétiens évangéliques. Alors, j'espère qu'à la fin de sa vie, ma grand-mère, elle a arrivé à pardonner à ma tante. Pourquoi je vous raconte quelque chose de mon histoire ou de ma famille? Parce que ça peut être aussi un sujet de souffrance. Des fois, on dit, oui, c'est la perte, c'est un moment difficile, j'ai perdu mon boulot, je ne sais pas, un divorce, des choses comme ça qui sont vraiment dures. Peut-être un échec à niveau, je ne sais pas, du travail ou économique. Mais des fois, il y a des souffrances qui vont rester pendant des années et qu'il faut que chacun de nous arrive vraiment à les traiter dans notre corps. Alors, il n'y a pas de croissance dans la vie. Écoute ça, tu peux prendre note de ça. Il n'y a pas de croissance dans la vie sans passer par des changements. Il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas de changement. Les enfants, ils vont grandir. Alors, cette semaine, j'ai vu 2 filles qui sont amies de Daniela. Ça fait 8 mois ou 9 mois que je ne les voyais pas. Elles sont peut-être le même âge, 16 ans. Et quand je les regardais, oh, comme elles sont grandies, elles sont déjà comme des femmes. Hein. Et moi, j'étais touché. J'ai dit, oh là là, quelques mois. Et après, on voit comme il y a des changements. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de changement sans perte. Il faut perdre quelque chose toujours. Il n'y a pas de perte sans douleur. Il n'y a pas de douleur sans souffrance. Mais la bonne nouvelle, écoute ça, Dieu peut utiliser notre souffrance pour nous aider à grandir. Et on va rentrer dans la parole de Dieu. On va lire Jean 12. À partir du verset 23. Celui-ci leur répondit, c'est Jésus qui parle, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Jésus lui a dit, c'est le moment que je vais rentrer dans ma gloire. Alors tout le monde pense, je vais passer dans la gloire, mais le chemin il va être un chemin facile, sans douleur, sans souffrance, sans affliction. Jésus l'a dit, c'est le moment, je vais rentrer dans la gloire. Et dans le verset 24, il dit, vraiment, je vous l'assure, écoute ça, si les grains de blé que l'on a jetés en terre ne meurent pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Amen. C'est Jésus qui nous a montré la parole. Alors il a dit, oui, il y a la gloire qui m'attend. Quand on regarde toute la vie de Jésus, on voudrait rester seulement avec les moments qu'il a ressuscité. Alors c'est les moments glorieux. On regarde à Jésus et on a dit, oh là là, quelle chance, il a ressuscité. Ah, quelle gloire. Il est assis à la droite de Dieu. Ah, quel privilège. Non, quelle chose plus grande qu'il a fait. Mais on oublie qu'il a passé par la croix. Qu'il a passé et qu'il a traversé la souffrance. Je vais partager tout par rapport à Jésus parce que je vais parler d'un autre personnage ce matin. Mais Jésus, c'est le modèle pour nous. Il a dit que c'est à travers de la souffrance qu'il a pris l'obéissance. On ne va pas apprendre à obéir si on ne traverse pas la souffrance. Et je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais des fois, c'est dans les moments que je suis dans la souffrance que je vais m'attacher de Dieu, que je vais me rapprocher plus de lui. Alors, Jésus, il nous montre le chemin. Il a dit, oui, il y a quelque chose de glorieux là-bas. Vous voyez, il y a la résurrection. Mais attention, ce n'est pas fini. Il faut passer d'abord par la croix. Et des fois, nous les chrétiens, on ne voudrait pas passer par la croix. Ah non, ce n'est pas marrant, ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas non, quelque chose de difficile. Hein? On voudrait éviter ça. On dit non, mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi qu'il traverse. Alors c'est vrai qu'il y a, comme on dit, on fait la résistance à la... Moi, cette semaine, quand j'étais en train de préparer ça, je me rappelais d'un ami qu'il y a sa femme qui est en Espagne et qu'elle est toujours dans la souffrance physique. Parce que tu sais, la douleur et la souffrance, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, mais ça peut être spirituel aussi. Des fois, on est dans la souffrance spirituelle. Alors, je me rappelais de cet ami qui travaille ici avec mon frère. Et après, toujours, je lui pose la question, ça va ta femme, comment elle va, parce qu'elle habite à Madrid. Et normalement, elle a vécu des moments de fatigue très forts. Elle était toujours avec des douleurs dans tous les corps. Quelquefois, c'était les bras, quelquefois les pieds. Bon, c'était toujours en difficulté. 12 ans après, les médecins, ils ont trouvé qu'elle a la fibromyalgie. C'est ça qu'il s'appelle, non? Et c'est une maladie que les personnes qui sont en train de souffrir ça, ils sont toujours dans la douleur. Alors, le Seigneur il m'a montré des chrétiens qu'ils sont toujours. Il m'a dit, écoute, ce n'est pas seulement quelque chose à niveau physique qu'on peut traverser. C'est vrai que c'est une maladie physique, mais il y a des personnes qui sont choisies de rester toujours dans la douleur, de rester toujours avec les ressentis, de toujours avec la même situation. Alors, bien sûr qu'il y a une étape pour tout, bien sûr qu'il y a des saisons qu'il faut traverser, mais on ne peut pas rester dans la vallée de la mort et dans la vallée de la douleur. On ne peut pas rester dans la croix. Imaginez, toi, si Jésus, il resterait sûrement dans la souffrance, dans la douleur, quand il a été à Gethsémani, qu'il a transpiré la sang. Non, c'est bien de traverser des moments comme ça. Je dis, c'est bien, c'est facile de dire, c'est pas marrant, mais à la fin, il y a la gloire qui nous attend. Il y a quelque chose de mieux qui est derrière la souffrance que tu as aujourd'hui, que tu as ce matin. Mais il faut que tu saches que ça va dépendre de toi, les moments et les temps que tu vas rester vraiment dans cette situation. Jésus, il nous a dit, il faut que chacun de nous prenne sa croix et me suive. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Chacun de nous a une croix différente à prendre. Je ne sais pas si c'est petit, si c'est grand, si c'est, je ne sais pas, j'aimerais bien que la moine soit en polystyrène ou quelque chose comme ça, que c'est moins lourd. Peut-être que c'est des bois, que c'est métallique, je ne sais pas. Mais c'est la parole de Dieu qui nous a dit, chacun de nous il faut qu'il prend la croix et qu'il marche avec elle. Il n'y a pas un autre chemin pour nous. Je suis désolé de vous dire ça ce matin. J'ai prié que le Saint-Esprit il va nous aider et on ne va pas nous décourager. On va prier à la fin. On va le faire. Mais c'est bien de montrer la vérité. Il faut savoir ça, mes amis. Pour ne pas rester sur le monde pour dire « Mon homme, c'est la mode. » Et dans les églises, dans les États-Unis, tout le monde dit « Ah oui, les choses ils vont changer. Le monde entier il va changer. Il va tout qui va s'améliorer. » Non, on ne peut pas mentir. On ne peut pas dire autre chose. Parce que quand tu regardes la parole de Dieu, ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu. C'est pas, il y a le pasteur Gilles qui nous a parlé ça fait quelques semaines. Jamais j'ai vu quelque chose se passer dans un an complet comme l'année dernière. Et cette semaine, deux jours après que ma mère il m'a appelé pour dire qu'il y avait la situation difficile avec ma tante, j'ai Paula qui m'a appelé et m'a dit « Écoute Oscar, il y avait un séisme à côté chez nous. » Et chez moi, je ne sais pas, ici en France, on ne le voit pas, mais en Colombie, voilà, ça fait 20 ans, il y avait presque une ville détruite complètement parce qu'il y avait un séisme. Mais ça recommence. Alors, on est dans le monde. Et on voit que le monde même, il est dans la souffrance. On voit que la terre, elle est dans la souffrance. C'est biblique. Il faut la traverser. Mais on a l'espoir. On a l'espoir en Jésus. Je partagerai ça après. Bon. Il faut traverser la croix. Alors, il y a des bienfaits dans la souffrance. Bien sûr qu'il y avait des bienfaits dans la souffrance. J'ai commencé par le premier. Il dit, nous, ça nous aide à être plus proches de Dieu. Psaume 34, verset 18. C'est David qui parle une fois encore. Il dit, alors, 34, 18, c'est bien marqué ça. Ok. Lorsque les hommes justes lancent leur cri vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur, il peut nous libérer de toutes les situations de souffrance. Je veux faire les parallèles et je vais commencer à parler. Je vais passer un petit peu rapidement dans cette histoire parce que je pense que c'est une histoire que tout le monde connaît. Ici, il y a une histoire qui peut nous montrer la souffrance dans la parole de Dieu. C'est la vie de Joseph. Parce que Joseph, il a traversé des moments difficiles pendant toute sa vie. Il avait été né dans une famille qu'il y avait déjà, il avait 10 frères qui étaient plus grands que lui. Et quand il est venu à la terre, je pense que la vie jusqu'à 17 ans, c'était facile pour lui. Parce qu'il a grandi à côté de son père. La parole dit, il a été le chouchou de son père. C'est ça qui dit la parole un peu. Je pense que son père, il a eu les personnes qui ont eu les enfants quand ils sont un petit peu plus âgés. Je pense que les petits, c'est les petits. Alors lui, ce n'était pas les plus petits, mais c'était les 12e plus petits. Alors il y avait quelque chose dans le corps de son père à faveur de Joseph. Mais Joseph, il a grandi. J'imagine que jusqu'à 17 ans, c'était une vie en rose parce qu'il était toujours à côté de son père. Ses frères plus grands qui faisaient les boulots, les choses plus difficiles, jusqu'à le moment que même, je dis, peut-être que c'était son orgueil, c'était qu'il était jeune, il a commencé à révéler à ses frères tous les rêves que le Seigneur il avait commencé à montrer. Alors il y avait un moment, et je vais passer rapidement parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire de Joseph ici, n'est-ce pas? Oui. Et après, il y avait un moment que ses frères, ils ont commencé à se dire, écoute, et on ne supporte pas à Joseph. Ils ont commencé à dire, écoute, il faut faire quelque chose avec lui parce que ça devient cette situation un peu insupportable avec lui. Alors ils ont pris la décision de dire, écoute, on va le tuer. Heureusement, il y avait un frère qui lui a dit, non, on ne va pas faire ça. On va le mettre dans un trou, cisterne, non? Un puits. Un puits, un cisterne, non? Citerne, merci. Un puits, un citerne. Et alors, ils ont fait ça. Et ils sont vendus à José. Alors, je vous invite à lire Genèse 39. Verset 1. Alors, on peut penser dans cette histoire que Joseph, malgré la difficulté, malgré les problèmes dans lesquels il a été, parce que être à l'intérieur d'un puits, c'était pas quelque chose que c'est bien ou que c'est marrant. Imaginons que jusqu'à 17 ans, il n'avait pas passé de gros problèmes ou de grandes difficultés. Alors, je n'imagine pas dans quelle situation il a été à l'intérieur de cette puits. En plus, il a été, il savait retirer quelques manteaux, quelque chose spécial que son père il lui avait donné. Et aussi, il a été vendu comme un esclave pour des commerçants qui sont passés à côté. Et après, ces commerçants, ils sont vendus à José, à Potiphar, que c'était quelqu'un qui travaillait pour, c'est pas les rois, pour les pharaons à l'époque. Mais il y avait quelque chose de spécial dans cette histoire. Et c'est pour ça que dans les premiers points, je dis, nous sommes plus proches de Dieu dans les moments de difficulté. Tu peux lire tous les psaumes, tu peux lire toutes les lamentations de Jérémie. Et je pense que dans la parole de Dieu, quand tu regardes bien, tu vas voir que plus de la moitié de tous les psaumes que David il a écrit, bien sûr qu'il y avait des moments de joie, on va louer le Seigneur, mais plus que la moitié, c'est des souffrances, parce qu'il a écrit tous les psaumes pendant les moments qu'il était dans l'affliction et dans la difficulté. Alors pour Joseph, ce n'était pas mieux la situation. Il a été déjà vendu, il était un esclave. On n'arrive pas à imaginer qu'est-ce que ça représente. Imaginons que tu es chez ton père, tu es le roi, tu es quelqu'un qui va recevoir tout l'amour, tu es avec ta mère, avec toute la famille, et après, dans un moment ou un autre, la vie ça, peut changer. Et ça nous arrive. J'ai raconté, ça fait quelques minutes, l'histoire de ma tante. Tout le monde était content, tout le monde est dans la joie, et d'un seul coup, tac, quelque chose qui vient trancher dans notre vie, quelques difficultés, quelqu'un qui meurt, on ne comprend pas. Une souffrance qui nous arrive. Et c'est ça qui est arrivé à Joseph. D'un moment à un autre, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, pas du tout. Hein. Je pense qu'il avait pensé, waouh, mon chemin, ça va être la gloire. Je vais être le roi. Il y a mes frères qui vont se posterner devant moi. Alors je pense qu'il a pensé, mon chemin va être simple. Je suis le fils de quelqu'un qui a de l'argent. J'ai des frères qui sont plus grands, qui vont faire le travail difficile. Alors j'essaie de me remettre dans l'histoire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais des fois, on est comme ça, on vit des moments comme ça. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur il a permis? Et tu sais, je vais te dire quelque chose ce matin. Pour Joseph, pour arriver à accomplir le rêve qu'il avait rêvé, pardon de me répéter, mais pour arriver à être à côté de Pharaon, c'était important de traverser le vallée de la souffrance et de passer par toute cette situation. Le Seigneur, il travaille dans notre vie avec des processus. Ouais. Alors, des étapes. Dans quelle étape tu es de ta vie? Tu es dans quelle étape de ta vie? Je te pose la question. Bien que tu aies réfléchi ce matin. Alors, il a traversé tout ça, mais qu'est-ce que je veux lire là? Si c'est la réponse de la part de Dieu. Écoute ça. Genèse 39, verset 1, 2, 3. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale. Verset 2, écoute bien ça. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Verset 3, celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. On va passer au verset 20. Dans le verset 20, l'histoire, ça nous raconte qu'après il a resté dans la maison de Potiphar. Il y avait après la femme de Potiphar qui voudrait draguer à Joseph. Joseph, il a dit non, tu es une femme mariée, je ne peux pas. Et après ça, il y a le verset 20 qui dit, il fit saisir Joseph pour les jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Écoute bien ça, le verset 21. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Et ça, c'est pour vous montrer quoi, comme j'ai marqué dans ce premier point. Quand tu traverses la difficulté, il y a deux possibilités. Je ne vais pas lire les versets, mais il y a un verset qui c'était l'apôtre Paul qui dit, dans les moments de la tristesse, il y a une tristesse, une affliction, une souffrance qui va t'aider pour chercher la repentance. Il y a une souffrance que le Seigneur il va permettre dans ta vie pour grandir et pour chercher la face de Dieu. Mais l'autre tristesse et l'autre affliction, ça va produire la mort. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, on peut choisir dans notre vie. Si tu traverses une situation difficile, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie. Si tu veux regarder à Dieu, t'attacher à lui, qu'il va venir, il va rester près de toi et qu'il va t'accompagner. Ce n'était pas facile pour lui. Mais tu sais, une chose qui a fait Joseph, c'est qu'il a choisi de garder son caractère et de garder l'intégrité devant le Seigneur. Il y a des moments que tu auras la possibilité de rater le chemin, de dire, écoute, je vais faire comme l'eau, que l'eau pour traverser, il s'adapte. Mais des fois, on ne peut pas. On est des chrétiens, on a des valeurs, on a quelque chose de fort. Il faut donner un témoignage. On ne peut pas nous adapter vraiment à toutes les situations, à toutes les circonstances que le monde entier il voudrait qu'on comprenne que c'est normal et que c'est comme ça que se font les choses. Non, on a été appelé à être différent. On a été appelé à nager contre le courant. On a été appelé à faire les choses, montrer au monde entier qu'on est vraiment différent. Et pas parce qu'on est toujours tous les dimanches dans une église. Non, ça ne fait pas la différence. La différence, ça fait quand tu vas sortir de l'église ce matin et tu vas trouver quelqu'un qui traverse une difficulté dans la rue et tu vas trouver quelqu'un qui est dans la souffrance et tu pourras te rapprocher pour dire, écoute, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce qu'est ta souffrance, mais il faut que tu saches que je vais prier pour toi et que je vais t'accompagner. J'écoutais une histoire cette semaine qui m'a plu beaucoup. Et c'était une histoire d'un homme qui, dans un accident, il avait perdu ses trois enfants. Imaginons perdre ses enfants. Il n'y a pas de nom pour dire ça. Un homme qui perd sa femme, c'est, comment dire, veuve. Si on perd ses parents, on est orphelin. Mais perdre ses enfants, je ne trouve pas un mot pour dire ça. Mais il y avait un homme, et c'est une histoire d'un livre que j'ai lu, ça fait quelques années. Alors il était vraiment dans la souffrance. Il y avait 12 amis qui se sont rapprochés de lui. Il y avait un qui est venu pour dire, écoute, t'inquiète pas, c'est pas grave, les choses ils vont s'arranger, tu es fort, le Seigneur il est avec toi, il est venu à l'encourager de cette manière. Il y avait le 12e qui s'est rapproché à lui, c'est pour ça que je parle d'être proche de Dieu, il s'est rapproché à ce côté, il a commencé à pleurer avec lui. Il a prié, il l'a embrassé, il l'a accompagné. Et à la fin de cet homme, qu'il a écrit un livre par rapport à ça, c'est un livre qui parle de la souffrance, il a dit, écoute, les gens ils ne savaient pas comme j'ai décidé que le premier homme qui est venu à m'aider partait tout de suite et que le deuxième restait à mes côtés et continuait à prier pour moi, à pleurer avec moi et à m'accompagner avec moi. Tout ça pour dire quoi? Le Seigneur, dans les moments de ta souffrance, il te comprend. Il se met à notre côté dans la souffrance. Le problème, ce n'est pas le Seigneur, c'est nous qui pense qu'il s'éloignait de nous, qu'il nous a lâchés, qu'il n'est pas à notre côté. Et dans cette histoire, il y a le Seigneur qui va montrer à Joseph, il y a ma grâce qui sera toujours avec toi, il y a ma faveur qui est toujours avec toi. Et s'il y a quelque chose qui a encouragé à Joseph dans la souffrance et dans la difficulté, c'était qu'il avait toujours la grâce de Dieu. Moi, je parle souvent avec mes filles. Demandez la grâce à Dieu dans ta vie. Parce que la grâce est plus importante qu'avoir l'argent ou qu'avoir tous les titres du monde entier. Quand il y a une personne qui a la grâce de Dieu, ça va te donner le endroit que tu seras. Parce que ça sera la vie, comme je sais. Tu seras dans la prison, tu vas être dans un puits, n'importe quel endroit tu pourras être. Mais le Seigneur, il va faire dans ta vie les choses qu'il a préparées. Sauf que ça dépend de toi, de le traverser. Parce qu'il faudra traverser. Il n'y a pas la souffrance, il faudra traverser. Mais ça dépend de toi. Si tu veux la traverser, ou tu vas lâcher, ou tu vas dire non, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas grave si tu dis ce n'est pas possible. Parce que tu sais, dans les moments plus difficiles de ma vie, quand j'ai dit Seigneur, je ne peux plus, je vais m'arrêter là. C'est le moment que le Seigneur il vient, il te prend, il me prend dans les bras, et il dit, écoute Oscar, on va y aller. Mais maintenant, ça ne sera pas toi qui va marcher. Ça sera moi qui va te prendre dans mes bras, qui te va t'accompagner et on va s'en sortir tous les deux ensemble. C'est pour ça que dans les moments de difficulté, le Seigneur il voudrait qu'on se rapproche de lui. Tu prends la décision. Tu veux rester dans l'amertume. Tu veux rester dans la rancune. Tu veux rester dans la même situation. Ou tu prends la décision de dire, écoute Seigneur, je vais me laisser traiter pour toi. Malgré la souffrance et les difficultés, j'aime bien que tu restes toujours à mes côtés. Jamais il va s'éloigner de nous. C'est plutôt à l'inverse. C'est nous qui dans la souffrance, on dit, le Seigneur il m'a abandonné. Le Seigneur, il n'a pas été avec moi. Le Seigneur, il m'a lâché. Et on peut prendre ces décisions, mais ça va dépendre de toi et de moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'était la première chose. Deuxième bienfait de la souffrance. Ça nous aide à grandir. Ça va nous aider à grandir. Romains 8, 28. C'est un verset très, très, très connu. Romains 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés, écoute ça, d'avancer à devenir conforme à l'image de son fils, afin que celui qui soit l'aîné des nombreux frères et sœurs. Il faut qu'on traverse les mêmes souffrances que Jésus il a traversées par terre. Il y a une bonne nouvelle. On ne va pas passer par la croix physiquement. Ah, ça, c'est une bonne chose. Hein. Quand on regarde les films, je ne sais pas si vous l'avez vu, les films de la Passion de Christ, ah, c'est dur hein, de voir ça. C'est qu'il y a un film. Imaginons, c'était comment la réalité hein, de passer par la croix, d'être traité de la manière que Jésus il a été traité. Non, on n'a pas besoin de passer par ça. Mais chacun de nous, comme je disais tout à l'heure, il y a un croix vraiment qu'il faut prendre. Ça nous aide à grandir. Et on va revenir sur l'histoire de Joseph. Genèse 41. À partir du verset 15. Alors l'histoire continue, il va rentrer dans la prison. Il y a un jour qu'il s'arrive deux hauts fonctionnaires aussi du roi, qu'ils avaient fait des torts et ils sont mis en prison. Un, c'était le chef des boulangers, et l'autre, c'était, on va dire, un mot adapté, le chef des voisins. Pour les boissons, qui testaient les boissons. Alors, il y a tous les deux qui sont arrivés. Ils sont rêvés tous les deux. Il y a un qui va rêver quelque chose de positif. Il y a l'autre qui va rêver quelque chose de négatif. Mais il y avait les dons et les talents que le Seigneur il avait donné à Joseph. Il avait donné un talent spécial pour pouvoir interpréter les rêves que le Seigneur il avait donné. Alors, à ce moment-là, il y a un qui vient lui poser la question, et dans les versets 15, celui-ci dit à Joseph, « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Alors, on ne peut pas oublier que Joseph, il était dans le processus. Il a passé déjà dans les puits, il a été déjà chez Potiphar. Il a été déjà condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a été déjà en prison. Mais le Seigneur, il voudrait vraiment traiter avec le corps de Joseph. Et à ce moment-là, il savait qu'il y avait un don, un talent qu'il avait, que c'était l'interprétation de rêve. Alors, il va répondre, Joseph répondit au Pharaon. Ce n'est pas moi. Ah non, pardon, ce n'est pas ça. Je pense que j'ai... Oui. Il va dire, ce n'est pas moi. Non, je me trompé d'histoire. Écoute, je suis en train de lire maintenant, et c'est l'histoire quand c'est Pharaon qui vient le raconter son rêve. Tout ça pour dire quoi? La première chose, qu'il a été dans la prison, quand les chefs de boulangerie et les chefs de boissons, ils sont demandés d'interpréter les rêves, il y avait Joseph qui l'a dit, écoute, je vais interpréter les rêves, et il l'a fait. Après, il a dit au chef de boissons, n'oubliez pas de parler à Pharaon pour lui dire, c'est toi qui m'as aidé, comme ça il va m'aider pour sortir d'une prison. À ce moment-là, le caractère de Joseph, il est en train de se travailler. Il pensait qu'il était plus fort en lui encore. Mais à ce moment-là, quand il a grandi, il est devant déjà le Pharaon qu'il avait appelé 12 ans après. Et maintenant, quand il fait la question, il dit, tout le monde m'a dit que c'est toi qui peux interpréter. Alors il va répondre, celui-ci dit à Joseph, j'ai fait un rêve et personne n'est pas capable de l'interpréter. J'ai entendu dire qu'il t'est suffit un temps de raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Et dans le verset 16, Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. Qu'est-ce qui avait été passé pendant ces 12 ans? Je pense que ça nous arrive à nous aussi. Pour grandir, il faut savoir que des fois, on pense qu'on est capable de résoudre la situation. On pense que c'est dans notre main qu'on va trouver la solution pour la souffrance qu'on traverse. On pense que c'est nous qui devons prendre le contrôle de la situation pour que les choses vont changer. C'est ça qui est arrivé avec Joseph. Mais après, à la fin, il a grandi, il est arrivé à comprendre et à dire, non, ce n'est pas moi qui va me faire sortir de cette situation. C'est Dieu qui va me donner vraiment l'interprétation, parce que s'il y a quelque chose que je peux avoir maintenant, c'est que le Seigneur, il m'a donné les dons et les talents. Et ce n'est pas moi qui suis le propriétaire de les dons et les talents qu'il m'a donné. Je ne sais pas ce que le Seigneur il t'a donné comme don et des talents. Mais des fois, c'est plus facile pour nous, dans les moments de souffrance, essayer de nous appuyer dans les dons et les talents. Si je suis très fort pour la prière, je vais dire, bon, ce n'est pas grave, je vais m'en sortir de cette situation parce que ça sera la prière qui va m'aider. Bien sûr que la prière, il va nous aider. Mais pas seulement parce que je suis fort dans la prière que je vais m'en sortir. Tu dis, non, écoute, je vais louer le Seigneur, je suis quelqu'un qui sait louer le Seigneur, c'est ça qui va m'aider pour sortir de cette situation. Non, ce n'est pas nous. Et tu sais, moi je suis très touché quand j'ai découvert ça, parce que j'ai lu cette semaine en train de préparer ça, toute la vie de Joseph. Et comme il y a eu un changement entre les moments qu'il était en prison avec ces deux personnes qui interprétaient les rêves, et après qu'il a été déjà devant Pharaon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a aidé à grandir malgré la difficulté. Et quand tu as grandi dans la foi, tu saves déjà, parce que tu dis, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui va le faire. C'est pas moi qui va partager ou qui va dire un message. Maintenant, j'ai prié avec Paula et avec mes filles à la maison et je dis, Seigneur, c'est pas moi qui va partager un message ce matin. Il faut que je dise les choses qu'il faut dire. Il faut faire les choses. Et ce n'est pas besoin qu'on dit. Alors, c'est le Seigneur qui est vraiment au contrôle. Mais il a aidé à Joseph, même à grandir dans les pires circonstances. Mais une fois qu'il a compris vraiment que ce n'était pas en lui, que ce n'était pas en toi ou en moi, de déterminer les temps qu'on va traverser dans les déserts. Parce que ça, ce n'est pas nous qui on va les faire, c'est Dieu. Mais quand je me rapproche de lui, je reconnais son autorité, et je le regarde et je dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui va gagner la victoire et qui va remporter la victoire, c'est toi. Alors c'est le moment que le Seigneur, il te prend, tu te rapproches de lui, et les choses ils vont commencer à avancer. Amen. Troisième, et ça, c'est très important. Un bienfait de la souffrance, c'est que la souffrance va permettre qu'on sera unis davantage en famille. Je ne sais pas si vous avez vécu des expériences comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés et de divisions entre les familles. Des fois, cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il y a une mère qui a laissé sans parler à son fils pendant 4 ans ou 5 ans. C'est un fils qui est grand déjà. Alors, on écoute des fois des histoires comme ça. Mais s'il y a quelque chose, et on peut le voir dans l'histoire de Joseph, qui nous aide à traverser les moments de souffrance, c'est toujours la famille qu'ils sont à côté. Moi, quand j'étais en Portugal, et j'ai quitté Portugal, ça fait 5 ans, c'était la famille proche qui a été à mes côtés. C'était le parent de Paula qu'ils sont venus pour nous aider. C'était mes parents qui lui ont dit, écoute, venez chez nous, on va vous aider. Vous traversez une désert, une situation très difficile, on va vous aider. Et c'est la famille. Je dis souvent à mes filles, s'il y a quelque chose que je pense que le Seigneur il peut fortifier dans les moments difficiles et dans les difficultés, c'est ça y est de chercher la famille. Mais pour que la famille nous aide, il faut nous pardonner. Il faut nous aimer, il faut nous accepter, il faut vraiment regarder pas la faute que l'autre a commis, non, regarder moi-même et me dire la vérité devant le Seigneur. Parce que sinon jamais ça va s'arrêter. Il faut que je regarde mon côté. C'est plus facile. Et Jésus, il nous a dit, quand tu vois les défauts, quand tu vois les péchés dans l'autre, tu vas voir tout de suite sa difficulté. Parce que jamais on se regarde nous-mêmes. Toujours on est en train de regarder vers l'extérieur. Je ne me regarde pas, et bon, plutôt moi. C'est ma femme qui dit, écoute Oscar, ça va bien avec ça, ça va bien avec ça, parce que sinon, je ne peux arriver ici comme un clown à l'église. Alors, on ne se regarde pas. Moi, j'aime pas le miroir. Mais c'est important de nous regarder, famille. C'est important de retrouver les bonnes choses qu'on peut retrouver dans la famille. C'est bien de s'aimer, de nous encourager. Et moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai grandi dans une famille difficile, dans une famille divisée complètement. Il y avait l'alcool, il y avait la souffrance, il y avait quelque chose de côté mon père, côté ma mère. J'ai déjà raconté quelque chose. Mais la situation plus difficile que je réfléchis cette semaine, que j'ai vécu ça fait 5 ans, que c'était pour moi le moment plus difficile de ma vie, j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu le Seigneur m'accompagner malgré que je pensais qu'il m'avait lâché, j'ai vu que Dieu il est un Dieu d'opportunité, il est un Dieu qui restaure, il est un Dieu qui vient pour nous consoler, pour nous aider. Et dans les moments plus difficiles, je l'ai vu venir et nous aider. Mais s'il y a quelque chose que je peux témoigner maintenant, c'est qu'il nous a donné l'unité dans la famille. Et quand je parle de la famille, je parle de ma famille, que j'ai fait partie maintenant, que c'est moi, ma femme et mes filles. Alors bien sûr qu'il faut chercher ailleurs. Oui, la famille, c'est pas seulement que quatre. Mais c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai vu la famille se rapprocher. Alors, on est une famille ici. Une famille spirituelle, et c'est ça qui c'est l'Église. Et c'est pour ça que c'est important de ça y est, de nous rapprocher. C'est pas facile. Le plus difficile dans une Église, c'est les relations interpersonnelles. Et moi, je dis ça souvent. C'est le plus difficile dans la vie. Hein? Nous supporter, nous aimer, nous pardonner. Des fois, on se regarde dans les miroirs et on dit, ah, je suis pas content avec ça. Imaginons avec une autre. On sait, la vie en couple, c'est pas facile. Hein? C'est pas la vôtre, mais la mienne, c'est c'était pas toujours évident, hein. On a travaillé. Mais vous savez, après la chute plus difficile, et quand j'étais dans les puits, c'est ça que le Seigneur il a venu nous aider pour dire, écoute, je vais travailler, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas vous lâcher, ça dépend de vous, mais il faut qu'on se remette devant le Seigneur, qu'on se rapproche de lui, s'il va nous aider à grandir, mais il cherche plutôt l'unité. C'est ça qu'il faut faire y travailler. Il y a une histoire, je n'avais préparé pas ça, mais il y a une histoire que j'adore beaucoup, je l'ai racontée plusieurs fois. Il y avait une fois une famille, et c'était une famille très 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 pauvre. Il y avait seulement qu'une petite vache, et qu'il était déjà, j'imagine, comme les vaches en Égypte, quand il n'y avait pas la nourriture. Alors, c'était seulement cette petite vache qui pouvait nourrir cette famille. Alors, chacun faisait les choses à sa manière. Ce n'était pas très uni, cette famille. Alors il y avait une fois une sage qui est venue, il a dit à son disciple, écoute, je vais t'apprendre une leçon d'unité et de travailler en équipe. Il a monté là-bas, dans cette ferme, il y avait cette famille, la maison c'était pourri complètement, c'était une famille pauvre complètement. Alors quand il est arrivé là-bas, le maître, il a dit, regarde, cette famille, ils sont en difficulté, ils ont des problèmes, ils sont ça, mais on va résoudre ça. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait cet homme, le maître? Il a poussé la vache dans un... comment ça s'appelle Oui. Et le disciple, il ne pouvait pas regarder ça. Il disait, oh là là, t'es méchant. Comme tu as fait ça, c'était ça, tout pour cette famille. Ils sont partis. Ça travaillait dans la tête de ce disciple. Un an après, ils sont venus. Et après, il a dit à son disciple, écoute, on va visiter cette famille pour savoir ce qui s'était passé un an après. Quand ils sont arrivés, oh, il y avait une grande maison, belle, tout neuf. Il y avait des vraies vies, il y avait des vaches, il y avait... La surprise de cet jeune disciple, quand il a vu sortir cette famille de la maison. Alors, il avait pensé, ils ont vendu la maison, ils ont vendu le petit terrain, cet éléphant. Mais après, ils ont vu que cette famille continue à vivre comme ça. Après, cet homme, cet maître, il va apprendre à son disciple, il dit, tu sais qu'est-ce qui s'était passé ici? Une fois que toutes les personnes, ils ont vu que seulement il y avait une petite vache qui pouvait les nourrir et qu'il avait décédé, ils ont commencé chacun de vous à s'unir et à travailler tous ensemble. Alors ils ont commencé à regarder ses dons et ses talents. Il y a qui a dit, ah oui, je suis bon pour construire des maisons. Pour... Il a commencé à travailler à faire ça. Il y avait un autre qui lui a dit, ah oui, je suis bon pour faire ça. Ils ont commencé à chercher les dons, les talents, à travailler tous ensemble. Et c'est comme ça qu'un an après, ils sont arrivés à avoir une belle maison et une belle vie. C'est une histoire, mais qui nous montre beaucoup de quelle manière on peut profiter les saisons difficiles. L'hiver, pour dire, je vais travailler dans l'unité de ma famille, ou je peux dire, vraiment, on va laisser lâcher les choses, on va vendre cette vieille terrain qui produit pas, et chacun va faire les choses de son côté. Les difficultés et la souffrance nous unissent davantage en famille. Genèse 45. On va voir dans la vie de Joseph. 45, à partir du verset 1. Alors, Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, alors l'histoire continue. Il va être à côté du Pharaon. Pharaon, il va dire, tu vas être le deuxième dans mon royaume, après qu'il avait interprété son rêve. Et un jour, il y a la famille qui vient chercher la nourriture à Gib, parce qu'il y avait de la, comment on dit, famine. Il y avait de la famine partout. Alors une fois que Joseph, il voit, je ne vais pas tout raconter l'histoire parce qu'il est un petit peu long, mais il y avait un moment qu'il a vu ses frères devant lui. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria, faites sortir tout le monde. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Il s'est révélé devant ses frères que c'était lui, Joseph, le frère que les autres, ils avaient vendu comme un esclave. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph lui dit, « Venez près de moi. » C'est la réconciliation avec la famille. Et je pense qu'il y a douleur plus grande qu'être rejeté pour sa propre famille, pour ses propres frères d'une manière comme ça. C'était dur. Je n'imagine pas la douleur et la souffrance que Joseph il avait vécue. Et c'est pour ça qu'à la fin, ça nous montre que si tu fais bien les processus pour lesquels le Seigneur il voudrait que tu traverses, à la fin, ça pourra nous conduire à l'unité de la famille. Et moi, j'aimais ce passage quand Joseph, il vient, il dit, écoute, c'est pas moi qui va vous reprocher les mauvaises choses que vous avez faites avec moi. Et on va le lire à la fin, parce que Dieu, il a permis toute cette situation. Dieu, il a permis qu'il traverse pour soi. Je suis Joseph, leur dit, votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Il m'a nommé. Écoute ça. Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. Il a donné la liberté à ses frères parce qu'il a donné le pardon, que c'était le plus important. Et quand tu donnes le pardon, ça te libère et ça peut libérer les autres. Et c'est pour ça que Joseph, il a arrivé à surmonter cette difficulté. Parce que dans toutes les traversées, je pense que le plus difficile pour Joseph, c'était pas tous les il a traversé, c'était pardonner ses frères et à la fin. Je finirai avec ça, comme ça on va prier. Le quatrième, nous pouvons aider les autres. Genèse 50. À partir du verset 14.
Il y avait un homme, son père, qui avait décédé. L'histoire, il raconte que toute la famille de Joseph, ils sont venus à habiter en Égypte. Ils ont trouvé la grâce devant Pharaon. Alors, Pharaon, il a donné un terrain pour rester, pour cultiver, pour avoir ses animaux et tout ça. Alors, il y a un moment où son père, il a décédé. Après avoir enterré son père, Joseph revint en Égypte avec ses frères et tous ceux qu'il y avait accompagnés aux funérailles. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, qui sait, peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors il y a quelque chose de spécial ici dans ce passage. C'était qu'il y avait déjà passé un moment et c'était vraiment la douleur et la peur des frères de Joseph qu'ils n'arrivent pas vraiment à croire que le pardon c'était sincère et c'était vrai. Et tu sais, l'ennemi plutôt dans les couples et dans les relations, il va essayer toujours de nous rappeler ça. Parce que quand on a vécu la douleur, il y a toujours lui qui va venir à dire peut-être qu'il n'a pas, il t'a pas pardonné la faute que tu as commise. Et des fois, ce n'est pas l'autre. Et on peut le voir dans ce passage. Ce n'était pas Joseph qui venait pour reprocher les choses. C'était sa propre idée pour dire, oh là là, peut-être qu'il a eu la miséricorde avec nous parce qu'il y avait mon père qui était en vie. Et il l'a fait pour amour à lui. Mais maintenant qu'il a décédé, peut-être qu'il va prendre dans sa main la situation, il va se venger de nous. Alors, ils lui envoyèrent un messager pour lui dire, avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Ils ont commencé à dire, on va dire que c'était mon père qui a donné l'ordre, comme ça, il ne va pas nous faire du mal. Vous demanderez à Joseph, veuille, je te prie, pardonner les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs de Dieu de ton père. En recevant ce message, Joseph s'est mis à pleurer. Tu sais, il a commencé à pleurer. Il a dit, ses frères virent en personne se jeter à ses pieds en disant, nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Il pose la question. Je peux prendre la place de Dieu pour juger ton péché, pour juger ma femme, pour juger mes enfants, pour juger quelques personnes? Non, ce n'est pas ça la place. Et tu sais, ça me montre à moi, quand j'ai lu ça, un cœur qui avait été traité pour le Seigneur jusqu'à le moment qu'il s'était sincère vraiment le pardon qu'il avait demandé. Alors il a dit, si suis-je à la place de Dieu, vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté d'où vient en vue d'accomplir ce qui s'est réalisé aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. J'ai pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et toucha leur corps par ses paroles. On va nous arrêter là, parce que je voudrais qu'on va prier avant de partir. Ah, mais j'aimais ce message, parce que par la vie de Joseph, ça nous montre vraiment comme le Seigneur peut nous aider au milieu des souffrances. C'est un message positif, famille. Je sais que c'est un message positif, parce que pour arriver à voir, pas la gloire, parce que Dieu ne va pas partager sa gloire avec nous. Même avec Gilles, j'ai partagé l'autre jour, il m'a dit, écoute Oscar, moi j'ai appris quelque chose, et c'est un pasteur qui l'a appris, que même pas une miette de la gloire de Dieu, ça nous appartient. La gloire, c'est pour le Seigneur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui a donné les dons et les talents. Alors on va faire le travail pour le Seigneur, pas pour nous. Et je prie que le Seigneur il nous aide à nous garder, de le servir avec un cœur disposé pour lui, à travailler pour lui, à faire les choses pour lui. Mais il faut nous laisser traiter pendant les souffrances. Il faut nous laisser traiter pour lui pendant les situations difficiles. On connaît l'histoire de Jésus. Bien sûr, il y a pas seulement que lui. Il y a aussi la vie de Paul qui a traversé des difficultés. Et on peut étudier chacun qui a passé une situation difficile, la vie de David aussi. Il n'y a pas le temps, peut-être on pourra passer des heures ici pour parler de la souffrance de tous les hommes de Dieu qu'ils sont traversés. Et chacun de nous, on a notre même histoire.
En tout cas, il y a quelque chose de bon, et c'est qu'il y a l'espoir qu'un jour, on va nous retrouver devant le Seigneur et on va dire, Seigneur, merci, parce que c'est à travers de la souffrance que j'ai grandi, et c'est à travers de toutes les difficultés, Seigneur, que maintenant, je peux pardonner, que je peux avancer et que je peux accomplir ta volonté. Et je pense qu'il y a Isabella qui va m'accompagner au piano. D'accord, on va... Je vous invite à prier. Et on finira pour la même question que j'ai posée tout à l'heure. Quelle est la douleur, la souffrance plus profonde que tu as pu expérimenter? Je te laisse réfléchir. S'il y a encore quelque chose que tu n'as pas lâché, le Seigneur il me dit que te dit, c'est le moment que tu le fasses. Et Joan, tu peux allumer le piano, s'il te plaît. Et le micro, merci beaucoup. Peut-être que ce n'est pas une seule souffrance. Je ne connais pas ta vie, mais il y a quelqu'un qui connaît bien ta vie. C'est le Saint-Esprit. Et je vais lire de Corinthiens 1:4. Et écoute bien ça, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit pour nous aider dans les moments plus difficiles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté. Regarde ta souffrance. Il dit, Seigneur, merci pour cette situation que j'ai traversée. Parce que tu es plein de bonté. Tu es le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. En leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Et verset 5, de même en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie. Le réconfort qu'il nous donne surabonde. Seigneur, je te prie pour notre congrégation, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais, Seigneur, notre passé. Tu connais les présents, Seigneur, que nous traversons. Mais plutôt, tu connais le futur, Seigneur. Jésus, tu es au contrôle de toutes les situations que j'ai pu traverser. Et dis-lui, Seigneur, merci pour tous les vallées de mort que j'ai traversées et que j'ai sorti de l'autre côté, Seigneur, et que j'ai sorti plus fort que comme j'étais avant. Merci, Jésus, parce que tu permets qu'à travers de la souffrance, Seigneur, je peux me rapprocher de toi, Seigneur, parce que c'est plutôt dans les difficultés, Seigneur, que j'ai l'envie de louer, que j'ai l'envie de pleurer, que j'ai l'envie, Seigneur, de te chercher face à face. Seigneur, pardonne-moi, parce que quand les choses ils vont bien, Seigneur, mon corps, il désire, Seigneur, être ailleurs, Seigneur, et partir un peu loin de toi, Seigneur. Alors je te remercie pour les situations difficiles que j'ai pu traverser, Seigneur. Je te remercie pour les problèmes, Seigneur, qui m'arrivaient, que je ne comprends pas, que je n'ai pas de réponse, Seigneur. Que des fois, je pose la question, Seigneur, pourquoi tu m'as permis de vivre ça? Seigneur, je n'ai pas choisi ma nationalité, Seigneur. Je n'ai pas choisi ma famille. Je n'ai pas choisi la situation que je traverse maintenant. Mais Seigneur, j'ai l'assurance que ton Saint-Esprit peut me réconforter, Seigneur. Et que ta parole dit, Seigneur, que chaque jour, il y a la miséricorde de Dieu qui se renouvelle dans ta vie. Et c'est ça que je déclare ce matin dans ta vie. Que cette miséricorde de Dieu, que peut-être tu penses qu'il est loin de toi, qu'il s'est éloigné de toi et que tu as pleuré, et tu as dit, Seigneur, tu es où, Seigneur? Je t'ai cherché au milieu des larmes. Je ne t'ai pas trouvé. Mais le Seigneur, il te dit ce matin, je suis là à tes côtés. Je suis là à tes côtés. Je suis là à tes côtés, même si tu passes, si tu traverses dans les fours, je serai là toujours pour toi. Parce que c'est dans le... l'espérance, que tu vas prendre l'obéissance et que tu vas grandir, Seigneur. On va chanter, on va dire, Seigneur, merci, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur, au milieu, Seigneur, de notre souffrance.